Le premier journal du jour, c'est avec Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Julie, bonjour à tous. En Italie, le gouvernement instaure une journée de deuil national, l'état d'urgence pour un an à Gênes également, après l'effondrement du viaduc autoroutier qui a fait 39 morts mardi. Alors que le gouvernement concentre ses attaques sur le gestionnaire de l'autoroute, nous dira Antonino Gallofaro, notre correspondant à Rome.
Et évidemment, en France, on se pose la question, est-ce que cette catastrophe pourrait arriver chez nous?
Alors que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, se veut rassurante, elle a réagi hier, mais un audit dévoile que 30% des ponts doivent être rénovés chez nous.
300 prêtres accusés de pédophilie en Pennsylvanie, on en parlait hier dans les matins, les victimes témoignent, Sophie Delpont.
Oui, près d'un millier d'enfants qui auraient été victimes d'abus sexuels pendant des dizaines d'années. Notre envoyé spécial Grégory Phillips a recueilli la parole de l'un d'entre eux. Pourquoi la Colombie est-elle devenue le deuxième pays le plus touché par les mines antipersonnelles dans le monde? Elles ont fait 99 victimes cette année. Nous entendrons l'analyse d'une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. À Gênes, on dénombre maintenant 39 morts et 16 blessés, dont 9 dans un état grave. 3 enfants n'ont pas survécu, victimes de l'effondrement du pont autoroutier mardi. Les autorités répètent qu'il y a encore des disparus alors que les secouristes continuent de fouiller les décombres. Parmi les morts, on dénombre notamment 4 jeunes Français, 3 Chiliens et 1 Colombien. Le gouvernement italien a décrété une journée de deuil national hier. L'instauration de l'état d'urgence à Gênes pour un an, ainsi que la révocation de l'autorisation de concession de l'exploitant de l'ouvrage, une filiale d'Atlantia, accusée de négligence criminelle. À Rome, les précisions d'Antonino Gallofaro.
Le gouvernement a décidé de révoquer la concession accordée à Autostrade per l'Italia pour la gestion de partie des autoroutes italiennes. Le Premier ministre Giuseppe Conte l'a annoncé hier. Il préfère lancer la procédure contre la société avant que la justice ne se prononce, et ce pour la sécurité des Italiens. Ces paroles font suite à une journée de polémique hier autour des responsabilités. Le mouvement 5 étoiles au pouvoir estime que si une société privée ne peut pas gérer correctement ses autoroutes, il préfère que l'État les prenne en charge. Les ministres des Transports et du Travail ont donc réclamé la démission des dirigeants d'Autostrade et l'ont menacé d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 millions d'euros. Le gestionnaire de quelques 3000 km d'autoroutes italiennes s'est défendu. Il a expliqué avoir investi plus d'un milliard d'euros dans la sécurité et la manutention de son réseau, que pour ce faire, il a utilisé des appareils hautement sophistiqués tout en respectant les normes indiquées par la loi. Autostrade per l'Italia a aussi promis de reconstruire le pont en 5 mois, mais c'est sans compter sur l'opposition du gouvernement.
Antonino Gallofaro, correspondant de France Culture à Rome. Et dans la ville de Gênes, en contrebas du pont, 630 personnes ont été évacuées. Leurs habitations sont détruites. L'endroit est même condamné. Le gouvernement s'est engagé à les reloger avant la fin de l'année. En France, quel est l'état des infrastructures? 30% des 12 000 ponts que compte le réseau routier géré par l'État sont à réparer et 7% d'entre eux présentent même un risque d'effondrement à terme, indique un audit récent réclamé par le gouvernement ces derniers mois. Le gouvernement qui a pris des mesures, a annoncé hier la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui tient à rassurer.
Je pense que ça montre aussi toute l'importance de l'entretien des ouvrages, et c'est tout le sens de la réorientation de la priorité en termes d'infrastructures que mène le gouvernement. On a augmenté de 100 millions d'euros les crédits pour l'entretien des ouvrages. Alors c'est parfois moins spectaculaire que d'annoncer des nouvelles infrastructures, mais c'est vraiment la priorité des priorités, la sécurité, et c'est pour ça que ce sera la priorité de la programmation des infrastructures que je présenterai à la rentrée.
Elisabeth Borne, la ministre des Transports, s'exprimait chez nos confrères de France Info. Plus d'éléments à suivre à 7h30 sur France Culture.
Aux États-Unis, les témoignages de ces victimes de près de 300 prêtres accusés de pédophilie dont nous parlions hier, Sophie Delpont.
Oui, ce nouveau scandale qui touche la Pennsylvanie après les révélations issues d'une enquête du procureur et les conclusions d'un grand jury dévoilé mardi. Près d'un millier d'enfants auraient subi des abus sexuels avec la complicité et le silence complice de l'Église, selon ces documents. Grégory Phillips, envoyé spécial de France Culture en Pennsylvanie, a pu retrouver l'une de ces victimes.
On this given day. C'est un grand gaillard de 55 ans, mais des larmes lui montent aux yeux dès qu'il évoque ce qu'il a subi au collège catholique de Bradford. Jim Van Sickle avait 16 ans et un professeur d'anglais, le père David Paulson, qui dans un premier temps a noué avec lui une relation de confiance, puis a commencé à lui faire des avances, puis un jour l'a amené dans un hôtel miteux et agressé sexuellement. Jim Van Sickle fait partie de ceux qui ont témoigné devant ce grand jury de Pennsylvanie.
C'est une victoire pour nous tous. On a gagné une bataille, mais pas la guerre. Vous savez, l'Église et ses dirigeants ont fait du mal. Et au lieu de demander le pardon du Christ et des paroissiens, ils continuent à se battre contre nous. Je pense que le rapport du procureur est assez clair. Il montre bien que ces prêtres sont des prédateurs et qu'ils sont nombreux. Le rapport montre aussi que ces crimes ont été couverts par les évêques, les cardinaux et le diocèse.
La plupart des faits sont prescrits. Le père Paulson, l'agresseur de Van Sickle, a été nommé évêque il y a 8 ans avant d'être suspendu. Mais sur les 300 prêtres prédateurs identifiés, il est l'un des seuls à être poursuivi. Pas pour ce qu'il a fait subir à Jim Van Sickle, mais pour des faits plus récents commis sur d'autres mineurs.
Grégory Phillips pour France Culture. Les négociations sur le Brexit doivent reprendre aujourd'hui. La première ministre britannique, Theresa May, a effectué un tour des capitales européennes pour tenter d'assouplir les conditions de la sortie de l'Union européenne. Avant le prochain conseil de l'UE, ce sera le 18 octobre prochain. On y reviendra dans le journal de 8h sur France Culture. La Colombie est devenue le pays le plus touché au monde par les mines antipersonnelles après l'Afghanistan. Alors que les affrontements avec les FARC ont cessé, 99 personnes ont été victimes de ces bombes cette année. Elodie Schindler est membre du comité international de la Croix-Rouge. Elle détaille les réalités derrière ce chiffre.
Ce qui est un chiffre extrêmement important, le double finalement du total qui avait été enregistré en 2017. 16 personnes sont mortes. Et un autre chiffre qui me semble très important à relever, c'est le fait que 70% de ces personnes sont des civils. 61 personnes civiles contre 30 militaires. Il faut se rendre compte que ces communautés qui sont touchées, c'est des communautés entières qui sont affectées. C'est un paysan qui ne peut pas aller cultiver ses champs, c'est des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est des communautés qui sont reclus, enfin qui vivent finalement enfermés et qui ne peuvent pas accéder aux centres de santé parce que les zones autour sont minées. Et ce travail qui a été fait dans les zones où il devait être fait, ces zones qui étaient contrôlées auparavant par des acteurs armés. Avec le processus de paix, effectivement, c'est des zones qui peuvent maintenant être déminées. Mais le problème, c'est que le conflit s'est déplacé à d'autres zones. Souvent des zones qui sont proches de la frontière, que ce soit avec le Venezuela, avec le Panama, avec l'Équateur. Premièrement, c'est une nouvelle contamination par les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre. Ce qui veut dire que c'est des communautés en fait qui sont pas forcément habituées à la problématique, qui ne savent pas comment réagir. C'est des zones aussi où il y a des flux migratoires. Finalement, des armes de guerre, des engins explosifs qui vont être détonés des années après, ou des gens qui vont marcher sur une mine. Donc c'est quelque chose qui est complètement indiscriminé et bien sûr qui est interdit par le droit international humanitaire.
Elodie Schindler du Comité international de la Croix-Rouge, jointe à Genève par Nadine Epstein. Au Nicaragua, opposants et partisans du président Daniel Ortega ont défilé hier dans les rues de Managua lors de deux manifestations organisées près de 4 mois après le début de la crise qui a fait plus de 300 morts. En Irak, des manifestations secouent la ville de Bassora, dans le sud du pays, depuis un mois maintenant. Dans cette province, poumon économique du pays, les habitants réclament un accès correct à l'eau potable, de l'électricité, de meilleurs services publics. Ils dénoncent également la corruption endémique et la confiscation du pouvoir, alors que l'exploitation des puits de pétrole reste entre les mains de sociétés américaines, chinoises et russes. Les milices iraniennes contrôlent en partie la région, Mathieu Laurent.
Ces milices comptent incorporer des milliers de volontaires chiites de Bassora pour aller combattre quelques centaines de kilomètres plus au nord l'organisation État islamique. Et aujourd'hui, rien, aucune contrepartie. Ces milices qui contrôlent les rouages des échanges frontaliers et infiltrent les tribus. Bassora, en rage de ne rien voir venir, rien ou si peu des milliards promis par Bagdad. La province de Bassora héberge 70% du pétrole irakien et son peuple peine à étancher sa soif, ses paysans à irriguer leur culture. Les marais de Bassora, asséchés par Saddam Hussein et malmenés par la guerre Iran-Irak, avaient retrouvé une partie de leur fertilité. La baisse des eaux du Tigre et de l'Euphrate les a de nouveau abîmés. Le nombre de bovins a chuté de 30% 600 en un an et 500 000 familles du Sud vivent de l'élevage. Les fonds de soutien sont systématiquement détournés. C'est le système dans son ensemble qui est vilipendé, qui plus est, depuis le résultat des élections législatives de mai dernier. Le Premier ministre sortant a été désavoué et Moqtada al-Sadr, figure autoproclamée de la lutte contre la corruption, devance une liste soutenue par Téhéran, l'Iran. Encore l'Iran à la manœuvre. L'Iran, qui a d'ailleurs suspendu ses exportations d'électricité en Irak depuis 2 mois, Bagdad n'a pas payé ses factures. « Vous avez volé des milliards !» hurlent les contestataires. Le delta du Châtel arabe s'est embrasé. La colère est montée le long de l'Euphrate, à Najaf, et a gagné, il y a peu, les faubourgs de Bagdad.
Mathieu Laurent pour France Culture. Les médias américains ripostent face aux attaques répétées de Donald Trump dans le sillage du Boston Globe. Plus de 200 groupes de presse publient aujourd'hui des éditos pour défendre la liberté d'informer. Sur les réseaux sociaux, le mot d'ordre sera le hashtag Enemy of None, ennemi de personne. Du soleil partout aujourd'hui, quelques exceptions pour le Finistère et le littoral normand avec de la pluie dans la journée. Ce matin, 18 degrés à Brest, 26 à Bordeaux, 28 degrés à Perpignan. Cet après-midi, 20 degrés sur la Bretagne, 24 sur le Nord, 27 à 30 degrés partout ailleurs, Julie Gacon.
Merci Sophie Delpont, on vous retrouve tout à l'heure pour les titres à 7h30.